Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est le troisième épisode aujourd'hui de L'amour sonne toujours deux fois, la série d'histoires d'amour recueillie par Monica Sabolo. Julia et Romain, comme les deux premiers couples que nous avons entendus, passent par le tourbillon de la vie. Ils se connaissent, se reconnaissent, se perdent de vue et se retrouvent, à la fois tels qu'en eux-mêmes et profondément changés. Il y sera question de façon de s'aimer, de moments de l'amour, de ces stades qu'on croit obligés de la passion et qui font penser Monica au fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Une sorte de dictionnaire savant des états amoureux, à la fois mine de citations pour les dissertations de Cagneux et bréviaire des premiers émois de jeunes intellectuels. Il y a 80 entrées pour donner voix à l'amour et à ces moments, à une époque où on pense encore que tout est discours, tout est texte et l'amour aussi. Pour cet épisode en particulier, on pourra par exemple penser à l'article qui s'appelle « Aimer l'amour ». L'auteur, Roland Barthes, y explique qu'en aimant l'amour, l'amoureux procède à une sorte d'annulation de l'autre. Une bouffée de langage, je cite, au cours de laquelle le sujet en vient à annuler l'objet aimé sous le volume de l'amour lui-même. Par une perversion proprement amoureuse, c'est l'amour que le sujet aime et non l'objet. Tout de suite donc une nouvelle histoire de retrouvailles qui parle de ça et de bien d'autres choses dans Les Pieds sur Terre sur France Culture par Monica Sabolo.
Pendant longtemps, j'ai été cette fille qui voulait vivre la passion et rien d'autre. C'était intense, éreintant, et ça se terminait toujours mal. Jeune fille, Julia avait le même genre de conviction. Sans excès, déchirement ni retrouvailles exaltées, une histoire ne valait rien. Romain, lui, pense exactement l'inverse. À ses yeux, le véritable amour est paisible, dénué de cris et de stratégies. Il aime l'honnêteté, la simplicité et les sentiments qu'on avoue sans crainte. Ces deux-là se ressemblent donc peu, et comme souvent dans ce cas-là, ils se sont plu tout de suite. Et comme souvent dans ce cas-là, ce fut très compliqué. Romain, 19 ans, rencontre Julia, 20 ans, dans une soirée en banlieue parisienne organisée par des amis de leurs parents à la fin des années 1990. La jeune fille est venue avec sa mère et Boris, son petit ami, chargé de passer des disques. De son côté, Romain accompagne son père et ne connaît personne. À son arrivée, il cherche dans la foule quelqu'un de son âge à qui parler.
Et là, je vois une fille qui me bloque totalement, quoi. Je me souviens la regarder comme ça et j'ai tout de suite deux impressions. J'ai d'abord l'impression de voir une dame, une grande dame, une femme, quoi. J'avais l'habitude d'apprécier, de tomber amoureux, de regarder des filles. Et là, j'avais l'impression d'avoir d'un seul coup un coup de foudre pour une grande dame. Elle dégageait une classe qui allait avec une maturité et qui allait avec une féminité qui était très, très aboutie déjà. Je me souviens de ses cheveux longs, raides et de son grand sourire. La deuxième chose qui m'est venue tout de suite, c'était quelque chose de l'ordre de l'inaccessible. J'avais l'impression que elle appartenait à un autre monde que le mien et que moi, je ne me prenais absolument pas ni pour un homme, ni pour un gentleman. J'ai même pas osé l'aborder. C'est elle qui est venue. Je me souviens pas très bien de ce qu'elle m'a dit, mais je l'ai tout de suite sentie motivée dans la rencontre. Ouais, c'est-à-dire qu'elle cherchait vraiment à savoir qui j'étais, ce que je faisais là. Et quand j'ai commencé à lui poser des questions, elle m'a très vite parler de son mec ou de son ex ou je sais pas, mais voilà, avec qui ça n'allait pas.
Coincé derrière les platines, Boris, le petit ami de Julia, aurait sans doute été ravi d'entendre ça. D'ailleurs, elle semble avoir complètement oublié son existence, trop occupée à discuter avec Romain. Ces deux-là ont vraiment l'air de très bien s'entendre. Bientôt, ils commencent même à se courir après dans la maison, comme des enfants.
Je montais très vite les escaliers et Romain me courait après. Donc j'imagine qu'on était déjà dans une phase de jeu. On rigolait un peu ensemble, donc on ne devait pas s'être parlé depuis 5 minutes. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un but précis de monter au 3e étage où il y avait juste la chambre de ma copine et de sa sœur. Mais je me souviens très bien de la sensation de monter les escaliers très vite, de l'entendre courir derrière moi et de me dire « c'est génial qu'il me court après comme ça, il va se passer un truc quand on va arriver là-haut ». Quand on est arrivé au 2e étage, il y avait une poutre trop basse et lui il se l'est prise en pleine tête et il est tombé de tout son long sur la moquette. Il s'est pas fait très mal mais il s'est quand même écroulé sur le sol. Et là je l'ai vu, les yeux un peu mi-clos, un peu sonnés par la chute, et je l'ai embrassé sur la bouche, comme le prince charmant. Je me suis sentie autorisée à l'embrasser. J'étais persuadée que c'était normal, que c'était ok, qu'il serait content aussi et qu'il y avait entre nous un début de quelque chose d'important.
Lorsqu'il se réveille, entre coup de foudre et coup sur la tête, Romain est au 7e ciel. Il ne se rappelle rien d'autre de la fête, hormis le départ furieux de Boris, le petit ami de Julia, qui débranche ses câbles, remballe vinyles et platines avant de quitter la place, fou de jalousie. Romain se souvient en revanche très bien de la nuit qu'il a passée ensuite avec Julia, allongée sur un canapé blanc, à se caresser les mains pendant des heures. Leurs bras qui se touchent au-dessus de leur tête, comme une cabane ou une arche. C'est le début de leur histoire. Ils se trouvent, l'un et l'autre, très exotiques. Elle écoute Barbara et Véronique Sanson. Il aime John Coltrane et le P-Funk. Elle fait de la danse classique et adore les gilets à boutons nacrés Agnès B. Lui fait du diabolo, fume des joints et ne porte que des pantalons baggy. Ils ne se quittent plus. Elle l'accompagne dans sa classe de prépa médecine. Lui assiste avec elle à ses cours d'histoire de l'art. Ils se nourrissent de passion, de Nutella et de cacolac. Ils font aussi des trucs absurdes, comme passer des heures à répéter la chorégraphie d'un clip de Janet Jackson où une danseuse atterrit dans les bras de son cavalier, recroquevillée sur elle-même. Leur histoire va durer 1 an. Quand ils ne sont pas ensemble, Julia envoie à Romain, depuis chez elle, des cartes postales de contrées tropicales où elle n'a jamais mis les pieds. « Bon baiser de Guadeloupe, où je bois du punch et me la coule douce. » Lui rédige des lettres enflammées. « Je t'aime, mais j'ai également une passion pour toi. » Tout cela me semble idyllique. Mais, sous ses airs fantaisistes, Julia cache une nature torturée et une insatisfaction chronique.
Je me souviens par exemple qu'un jour, on est allé voir Titanic au cinéma et qu'en sortant, j'étais folle de rage contre lui parce qu'on n'avait pas vécu l'histoire qu'il y avait au cinéma. Et donc là, je lui ai vraiment fait la gueule parce que je suis sortie de là, je me souviens parfaitement de ce que j'avais ressenti, la beauté de cette histoire, de cette passion, et je l'ai regardée sur le boulevard et je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est absolument nul comparé à ce qui est possible, cinématographiquement parlant. Et moi, mon idéal, il était littéraire, cinématographique, et dès que cet idéal-là était un peu troublé, j'étais folle de rage. Je voyais bien dans son regard, dans les lettres qu'il m'écrivait, dans le discours qu'il avait, qu'il était très honnête et je ne savais pas très bien quoi faire de cette honnêteté. J'étais très désarmée par le premier degré amoureux dans lequel il était. Moi, j'avais besoin que les choses soient tordues, manipulées, j'avais besoin d'avoir des stratégies. Et lui, il n'en avait pas du tout, comme s'il n'était pas assez étoffé, quoi, pas assez épais pour vivre une histoire d'amour qui était pour moi, qui devait tenir en 2 heures sur un écran.
Je me demande ce qu'on éprouve à 19 ans quand on doit faire avec une fille qui veut vivre tous les chapitres de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, de la catastrophe à la jalousie en passant par le drame et l'insupportable.
C'était pas facile dans le sens où très vite, je ne comprenais pas pourquoi les choses n'allaient pas, pourquoi elle n'était pas contente, pourquoi elle n'arrivait pas à être tranquille, à être heureuse. À l'époque, je voyais un peu les choses comme ça. Souvent, elle devait me jeter de chez elle ou me demander de partir. Et je le vivais pas bien du tout. Il y avait des scènes où elle réintroduisait un petit peu le fait qu'elle se faisait draguer par d'autres garçons, le fait qu'elle savait pas trop, qu'elle hésitait quand même à aller prendre un café avec un tel. Je me souviens d'une lettre où je lui dis « S'il te plaît, n'épouse pas Boris. » Je me retrouvais parfois à pleurer. Il y a une scène, mais c'est plus vers la fin de cette période où je me retrouve sur le banc public devant chez elle, après m'être fait jeter une énième fois. Et là, je suis en larmes, c'est la fin de ma vie. Et il y a sa mère, à ce moment-là, qui arrive, et qui me dit, « Bah alors, Romain, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pleures comme ça ?» C'est Julia, elle. J'y arrive pas, je comprends pas, elle arrive pas à être heureuse, je comprends pas ce que je fais de pas bien, etc. Et là, sa mère me dit, « Mais tu sais, Julia, il faut pas aller dans son sens, il faut être un peu dur avec elle, etc. » Je me souviens me dire à ce moment-là, je devais penser en pleurant, quoi, et me dire, mais moi je veux pas, moi je veux simplement l'aimer naturellement, j'ai pas envie de la manipuler, j'y arriverai pas de toute façon, elle est trop intelligente, elle se laissera pas manipuler. Et c'était le désespoir.
Quand elle repense à tout ça aujourd'hui, Julia a un peu de peine pour Romain, un peu pour elle aussi. Mais moi, je comprends très bien cette fragilité de jeune fille. Moi aussi, j'ai rendu des garçons cinglés avec mes états d'âme, sans même m'interroger sur ce que je désirais vraiment.
Je pense que c'est à cette période de ma vie que j'ai construit une espèce de personnage, en fait. Un personnage, oui, assez narcissique, qui avait vraiment besoin de séduire. Je pensais que ça allait être mon salut de séduire. Je pensais que les hommes allaient me sauver. Et donc, j'étais dans une phase de ma vie où les garçons se succédaient et où j'étais dans une espèce de fuite en avant pour séduire les garçons. Et c'était très important. Ma vie en dépendait. Et je crois que je me mettais en scène. À ce moment-là, j'ai créé un personnage dont j'étais persuadée qu'il fallait vraiment tirer à quatre épingles pour être parfaite, pour me présenter. Je voulais être une apparition dans le regard d'un garçon. Et donc, je me lissais les cheveux, je me maquillais juste un tout petit peu pour avoir l'air de pas être maquillée, je m'habillais juste assez pour avoir l'air de pas avoir fait d'efforts. Tout ça a été hyper travaillé. Je mettais beaucoup d'énergie et de cœur à me préparer avant de sortir. C'était le meilleur moment pour moi, le moment le plus essentiel. Et ensuite, j'étais un peu en apnée, quoi. Quand j'avais rendez-vous avec un garçon, je me déguisais en une espèce de poupée parfaite qui devait absolument rentrer dans ce que l'homme désirait. Je faisais tout pour être, pour essayer de plaire. Je voulais être choisie, quel que soit ce que je ressentais, moi. J'ignorais complètement qui j'étais. Je me suis construite à cet âge-là comme une espèce de coquille vide. Enfin, peut-être pas coquille vide, mais je misais tout sur une espèce d'apparence, quoi, qui était vraiment pathologique et vraiment un peu triste, je pense, à l'époque, enfin, avec le recul. On était très amoureux quand même. Il y avait... Comment dire ? Je n'étais pas capable d'être amoureuse à ce moment-là de ma vie, mais je pense qu'on l'était. Avec le recul, je crois vraiment que c'était un grand amour, mais au moment de cet amour-là, je n'étais pas prête.
Si Julia n'est pas prête pour le grand amour, elle a des préoccupations sérieuses qui révèlent toute son insécurité. Elle a, en particulier, une problématique cheveux.
Ses parents avaient une maison de campagne en Bourgogne, une très jolie maison. Je l'avais rejoint dans cette maison en Bourgogne. Et moi, comme il fallait toujours que j'ai les cheveux tirés, il fallait que j'ai un séchoir, mais c'était des choses que je faisais en cachette. Il fallait absolument pas que j'ai un séchoir dans ma valise parce que c'était les coulisses de ma préparation. Et donc, je ne me baignais pas dans la piscine parce que je voulais pas me mouiller les cheveux parce que sinon on allait voir ma vraie nature, mes cheveux allaient friser. Et un jour, des copains à lui m'ont jeté dans la piscine. Et là, horreur, parce que ça a commencé à sécher et à friser. Et là, je suis rentrée à Paris, pour me faire un brushing. J'ai dit à Romain, je suis désolée, mais là, je n'en peux plus. Je rentre à Paris, tu m'énerves. J'ai pris le train, je suis allée me faire un brushing. Et puis je lui ai dit, écoute, finalement, j'ai 3 jours de libre, je vais revenir te voir. Et je suis revenue avec les cheveux tirés.
Après un an de relations passionnelles et épuisantes, de cheveux lissés et de remake de Titanic, Romain craque. Il convoque Julia dans un café et la quitte. Ils en sont tous les deux très malheureux, mais finissent par passer à autre chose. C'est à cette époque-là que Romain remet en question sa vision de l'amour.
Je me suis dit que un amour passionnel, en vrai, c'était un amour d'adolescent et que le véritable amour, il n'y avait pas de passion, il y avait quelque chose de plus profond, de plus posé, de plus construit. Et je suis parti dans d'autres relations après, plus dans cet esprit-là, avec moins de passion amoureuse comme je l'avais eu avec Julia auparavant. J'ai construit ma vie après avec quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. J'avais l'impression qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Une façon de vivre, une façon d'être qui était identique. Avec Julia, on était dans la complémentarité. C'était autre chose. On était différents, mais cette différence nous permettait de nous compléter. C'est un peu ça aussi qui me manquait, qui me faisait m'interroger sur ce qu'était l'amour, ce que doit être l'amour et ce que doit être une relation amoureuse à deux. Est-ce qu'on est dans la similitude ou est-ce qu'on est dans la complémentarité?
De son côté, Julia se marie avec un homme qu'elle qualifie de doux et droit, qui la rassure. Elle pense quelquefois à Romain, se demande ce qu'il est devenu, mais sans plus. Un jour, alors qu'elle promène son fils dans sa poussette, elle le croise dans la rue. Romain est accompagné de sa femme et porte un petit garçon sur ses épaules. Julia n'en ressent aucun trouble, elle est simplement heureuse pour lui. Leurs deux mondes sont toujours aussi éloignés. Elle est artiste commissaire d'exposition, lui médecin urgentiste. Les années passent, ils ne se donnent pas de nouvelles et finissent par se séparer de leurs conjoints respectifs. Alors, la surprise de Julia est grande, lorsqu'au printemps 2023, elle reçoit un message de Romain.
Il m'a envoyé un message sorti de nulle part. Je pense que ça faisait vraiment 20 ans qu'on avait le même numéro de téléphone, lui et moi, donc on avait nos numéros de téléphone. Et il m'a envoyé un message disant « Salut Julia, j'ai pas mal de temps libre cette semaine. » Comme s'il avait été très occupé pendant 27 ans, vraiment débordé, mais que là, il avait trouvé un créneau. Je voyais que c'était maintenant, quoi. Que c'était maintenant, il y avait dans son message une espèce d'urgence. Donc je lui ai dit peut-être jeudi ou vendredi et il m'a dit non, ce soir. On s'était croisés 2 fois par hasard, mais la dernière fois qu'on s'était donné un rendez-vous, c'était il y a presque 30 ans. Donc là, on avait un vrai rendez-vous qui ressemblait un peu à une date, mais on ne savait pas très bien. On est allés au restaurant, tous les deux. Et moi, je pense que j'ai voulu tout de suite rejouer l'espèce de jeune fille que j'étais à l'époque. Parce que j'étais dans un moment de ma vie où je vieillissais, où je sentais que le personnage un peu narcissique de femme que j'avais surentraîné commençait à fatiguer et que je n'avais plus ni le même visage, ni le même corps et que je pouvais peut-être plus prétendre à impressionner, quoi. Fallait que j'arrête d'être une apparition, justement, pour les garçons. Et je me suis dit, mais avec Romain, je vais quand même essayer. Parce qu'il m'a laissée à ce moment-là, donc peut-être qu'il va voir la jeune fille en moi. Et j'ai eu le réflexe de lui ressortir le même cirque qu'à l'époque. Et je me souviens que j'étais en totale périménopause, mais que j'avais fait croire que j'étais tombée enceinte, que j'étais donc encore extrêmement fertile. C'était vraiment une des premières choses que je lui ai dites. C'était ridicule, quoi. On se voyait depuis 5 minutes. Et je lui ai dit, tu sais que je suis encore très fertile. Et c'est pour ça que j'ai des gros seins d'ailleurs. C'est parce que j'étais enceinte il y a très peu de temps et j'ai fait une fausse couche. Alors que j'étais en pleine périménopause, quoi. C'était pour ça que j'avais pas mes règles. Et il m'écoutait avec attention. Et à ce moment-là, je me souviens que les menus sont arrivés et qu'il a sorti de son sac des lunettes de pharmacie, des lunettes loupe, quoi, des lunettes de pharmacie basiques, et qu'il les a mis sur le bout de son nez pour lire le menu. Et je l'ai vu avec ses cheveux grisonnants, ses petites lunettes de vieux à loupe, en train de faire des allers-retours avec le menu pour essayer d'y voir clair. Et là, je me suis dit, on arrête en fait. On arrête ce cirque. Je suis en face d'un père de famille. Je suis une mère de famille en périménopause. Je vais peut-être arrêter de lui faire croire que je suis enceinte, que je suis fertile, que c'est reparti, qu'on va faire des enfants. On a 47 et 48 ans. Est-ce qu'on peut pas se reposer? Et ça m'a beaucoup touchée qu'il mette ses lunettes. C'était le contraire de la séduction, de la... Moi, je l'aurais pas fait. Si j'avais eu besoin de grosses lunettes à loupe, à ce moment-là, je les aurais laissées cachées et je leur ai dit « choisis pour moi » si j'avais rien vu au menu. Voilà.
Julia est bouleversée par ces retrouvailles. Romain, lui, a l'impression de renouer avec la poésie et la drôlerie de leur jeunesse. Le lendemain, ils vont voir une expo, rigolent et parlent sans cesse. Le soir même, quelques instants après l'avoir quitté, Julia lui envoie un message lui proposant de passer chez elle.
Là, je vois le feu passer au vert à ce moment-là, donc je fonce chez elle. J'arrive chez elle, elle ouvre la porte et là on s'embrasse et je retrouve un peu de mon adolescence. On s'embrasse comme des adolescents, on se roule des pelles concrètement pendant assez longtemps et puis on termine par faire l'amour sur son tapis blanc à côté de son lit. C'était très joli, c'était très doux, intense, c'était super, c'est vraiment un super moment, quoi. Et à ce moment-là commence notre deuxième partie d'histoire. Et je retombe tout de suite amoureux. Je retombe tout de suite amoureux avec énormément de profondeur, avec l'impression de m'être interdit un petit peu cette intensité-là amoureuse jusqu'ici. Et je me sens libre un petit peu de me lâcher dans le fait de ne pas retenir mes sentiments que je sens arriver pour elle.
Après cette deuxième première nuit, Romain et Julia se voient tous les jours. Ils déposent des cacolacs sur son paillasson. Ils discutent durant des heures, traînent au lit, rejouent la chorégraphie de Janet Jackson. Désormais, Julia s'élance dans ses bras en toute confiance. Dans une boîte, elle garde précieusement toutes ses lettres et une série de photomatons, en noir et blanc, où il sourit jusqu'aux oreilles. Depuis 2 ans, ils vivent un amour presque apaisé. Mais je voudrais savoir si Julia est capable d'être heureuse aujourd'hui. Je me demande si on peut vraiment changer dans la vie. Eh bien, apparemment, c'est possible. Elle affirme que rien n'est plus pareil. Elle a compris que la vie à deux pouvait être simple, sans besoin de faire du cinéma. Et forcément, pour le prouver, parce qu'elle ne sait toujours pas parler d'amour, Julia me parle de ses cheveux.
J'ai eu une longue discussion très récemment avec lui, où il m'a répondu « Mais tu sais, je te vois et je t'ai toujours vue. » Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur, c'est un peu idiot de le dire comme ça, mais je n'ai pas besoin de m'apprêter. C'est très récent, c'est pour ça que c'est assez révolutionnaire à l'échelle de ma vie. Je n'ai absolument pas besoin de me préparer quand il arrive. Je suis retournée dans la maison de Bourgogne l'été dernier avec mon séchoir et mes brosses. J'avais l'impression d'avoir fait un grand pas en avant, de pouvoir lui dire « Regarde comment je me lisse les cheveux. » Et aujourd'hui, je me les lisse même plus. Donc, il peut me voir avec mes cheveux frisés, il peut me regarder me préparer. Avant, j'aurais été tétanisée à l'idée qu'il me regarde faire ça. Et aujourd'hui, je vois la différence entre la jeune fille que j'étais, qui avait très peur qu'on la voie se préparer et qu'on la démasque, en fait. C'est ça que je vois, en fait. C'est le chemin que j'ai parcouru sans même penser à lui, mais en tout cas en me remettant aujourd'hui entre ses mains de manière totalement différente que ce que j'étais la première fois que je l'ai embrassé dans l'escalier.
Par prudence, Romain lui a récemment offert un mini sèche-cheveux de voyage. De son côté, Julia lui a envoyé une carte postale du Costa Rica sur laquelle elle a écrit « Je t'aime, mais j'ai également une passion pour toi.
Parle-moi de ta voix, pareille à l'eau courante, lorsque c'est ralenti, le souffle des aveux. Dis-moi tes mots railleurs, et cruels si tu veux, mais berce-moi de là, mélopée enivrante, de ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante, lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, ô mon harmonieuse et musicale amante. Ta forme est un éclat.
C'était L'amour sonne toujours deux fois, troisième épisode avec Romain et Julia, reportage de Monica Sabolo réalisé par Louise André. Merci bien sûr à Julia et à Romain, ainsi qu'à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Inès Bouffartig, Sébastien, notre stagiaire.
Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, oh mon désir, t'implore, oh mon désir. Tu frôles sans étreindre, ainsi que la chimère vers qui tendent toujours les vœux inapaisés. Rien ne vaut ce tourment, ni cette extase amère de tes rares baisers. Et moi j'écouterai ta voix et son doux chant. Je ne comprendrai plus, plus j'écouterai cherchant. Sinon l'entière oubli, du moins la somnolence, car si tu t'arrêtais, ne fût-ce qu'un moment, j'entendrai, j'entendrai, au profond du silence, quelque chose d'affreux qui pleure horriblement. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, mais berce-moi de là, mélopée enivrante. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, oh mon désir, t'implore, oh mon désir. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant.